France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann.
Que dévoile le nu ? C'est notre série de cette semaine. Après nous être penchés sur certains artistes et certaines époques, voici aujourd'hui une question générale qui concerne toutes les époques et bien entendu la nôtre aussi. Quatrième épisode, qu'y a-t-il de transgressif dans le nu ? C'est du nu que nous parlons, c'est-à-dire de la représentation de la nudité dans les arts et non de la nudité effective, c'est-à-dire de ce que la réalité d'un corps nu provoque dans une société donnée. Certes, les choses sont un peu liées, plus la nudité est transgressive dans une société, plus le nu prend le risque de l'être, et inversement, une nudité très acceptée, comme chez les Grecs anciens, nous l'avons vu, du moins pour les hommes, autorise beaucoup de choses pour les artistes qui représentent cette nudité. Le nu, cependant, pourrait-il avoir plus de marge de manœuvre avec les normes sociales que la nudité? Sa transgression à lui est élaborée esthétiquement. Cela donne peut-être à la représentation du corps nu une chance que le corps nu tout seul n'a pas vraiment. C'est ce jeu J-E-U du nu avec les normes que nous allons analyser ce matin. Ses échecs aussi, c'est-à-dire les situations où le nu devient ou redevient trop transgressif, insupportable à une époque. Bonjour Carole Talon. Hugon.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, titulaire d'une chaire de professeur esthétique et philosophie à la Sorbonne. Vous venez de faire paraître une histoire philosophique des arts au PUF. Bonjour Émilie Séris.
Bonjour.
Vous êtes dotée d'une formation philosophique et spécialiste de littérature latine à la Renaissance, spécialiste aussi de l'humanisme italien en général, maîtresse de conférences à la Sorbonne. Vous avez publié en 2002 Le nu dans la littérature de la Renaissance aux presses universitaires François Rabelais. Enfin, bonjour Christophe Genin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de l'art, professeur des universités à la Sorbonne. Vous connaissez bien le street art et l'art contemporain en général, la photographie tout particulièrement. Les références de vos travaux sont sur notre site. Bienvenue à tous les trois pour évoquer ce qu'il y a de transgressif dans le nu.
Cette photo, c'est la robe que je portais hier quand je me suis présentée au musée d'Orsay. Et à cause de cette tenue, ça justifie pour eux de me refuser l'entrée. Et c'est pas du tout de l'exhibition, ce que j'ai fait, c'est juste, c'est juste un décolleté. Et le problème, c'est que j'ai été sexualisée et qu'on a projeté sur moi une vision que je n'ai pas du tout revendiquée, en fait. Enfin, moi, je suis venue au musée pour voir une exposition et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me rabaisse comme ça, à ce qu'on me réduise juste au fait que ce soit un corps et une grosse paire de seins, en fait. Dans le musée, quand je suis rentrée après, j'ai vu des femmes qui avaient des brassières, j'ai vu des femmes qui avaient des robes d'été avec des dos nus, des femmes qui avaient des décolletés. Mais elles étaient toutes globalement assez plates ou très minces, ou en fait pas avec des seins que moi j'ai. Et en fait, je me disais que si moi, je m'étais présentée avec les tenues que j'ai pu voir dans le musée, bah, ça ne serait pas passé non plus, parce qu'en fait, le problème, c'est les seins.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre l'entretien par le site Brut en septembre 2020 d'une jeune femme qui s'appelle Jeanne et qui a été refoulée à l'entrée du musée d'Orsay le 8 septembre 2020. Elle portait une robe d'été donc avec un décolleté. Apparemment, à l'entrée du musée, ça leur a pas plu. Elle invoque la taille de sa poitrine, on n'en sait rien. En tout cas, je tiens à préciser que le musée d'Orsay a parlé d'un incident et à présenter ses excuses. Donc voilà, c'est une affaire, une anecdote malgré tout, en dépit de, en effet, ce que cette femme a pu éprouver. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, elle entrait dans un lieu, le musée d'Orsay, où il y a beaucoup de nus, de représentation du corps nu. Et elle, avec, pour des raisons que nous ignorons en vérité, quelque chose de sa nudité, sa poitrine, a posé problème. Est-ce que ça ne nous rappelle pas, en tout cas, que la nudité est bien plus transgressive que le nu? Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Carole Hugon ?
Carole Talon-Hugon.
Carole Talon-Hugon, excusez-moi.
Il est évident dans le cas que vous venez de relater qu'on voit bien la différence entre la présence, la présentation d'un corps et la représentation d'un corps, comme ça peut être le cas dans une photographie de ce même corps. Et lorsqu'il s'agit d'une représentation artistique, ça ajoute évidemment encore une autre dimension qui est propice justement à l'éloignement de la nudité. Donc en effet, entre la nudité et le nu, la différence est considérable et on le voit bien sur cet exemple.
Et vous, Christophe Génin, qui êtes un spécialiste d'art contemporain, de photographie, est-ce que si la photo a parfois plus de... On lui cherche plus de noises à propos de ses représentations du corps nu que d'autres formes d'art, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui évoque la nudité brute, alors que l'idée d'une élaboration dans la sculpture ou dans la peinture permet de mettre un peu à distance qu'il y a de massivement transgressif dans la nudité réelle?
Alors, dans la photographie contemporaine, oui, c'est le cas, parce que très souvent, on cherche un peu le cliché spontané, ou en tout cas, la mise en scène du corps peut-être moindre, sauf chez certains artistes comme Araki, où là, il y a vraiment une mise en scène importante. Mais ce que je voudrais signaler surtout, c'est est-ce qu'on arrive à identifier la limite du nu, entre justement nu et nudité, parce que dans certains pays, être tête nue, c'est déjà transgressif. Mmh. Bon, pas simplement se promener dans la rue, mais même représenter une représentation d'une personne tête nue au cinéma est considéré comme scandaleux.
Et le sein, par exemple, aux États-Unis, est vraiment un organe très particulier, immontrable. Alors, elle s'en souvient, Jesse Jackson.
Oui, le sein, oui, comme par exemple le sexe en érection masculin,
ouais,
donc en Europe. Donc il y a comme ça chaque pays, mais en tout cas un certain nombre de pays ont, ou de civilisations ont leur zone de tabou. Mais l'art, les représentations artistiques du nu vont quand même être en fonction de la nudité qui est tolérée ou non dans le pays. Bon. Donc, je vous dis, vous prenez en Iran aujourd'hui, le tête nue, c'est déjà un acte politique très très fort.
Et ce n'est pas du coup montrable non plus dans la représentation de cette nudité-là, c'est-à-dire dans un nu de tête, oserais-je dire.
C'est représentable, mais aux risques et périls du cinéaste, du photographe ou de l'artiste.
Bon. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des pays qui assimilent complètement le nu à la nudité, et où c'est tout aussi interdit. C'est-à-dire la nudité est tellement interdite qu'il s'agisse de tout le corps ou d'une partie du corps que le nu n'a aucune chance. Émile Séris, c'était le cas à la Renaissance, vous qui connaissez bien cette période. Est-ce que la nudité était taboue dans la société gravement, et cela expliquerait qu'on ait traqué malgré tout certains peintres. Je pense évidemment à Michel-Ange et à la chapelle Sixtine. On a demandé à un autre peintre de reculoter tous ces petits anges tout nus.
Alors effectivement, il y a une interdiction morale sur la représentation, le fait de dévêtir le corps, particulièrement le corps féminin. On ne peut pas montrer en public le corps féminin. Ça pose un problème pratique pour les artistes qui ne peuvent pas faire poser de femmes nues, notamment.
Ça, c'est à la Renaissance.
À la Renaissance, tout à fait.
Et la nudité à la Renaissance est, surtout pour les femmes, très, très, très protégée et encadrée.
Elle est protégée. Alors c'est très inégal selon les cités, selon les pays. Aussi, on pense toujours à Venise où finalement les femmes peuvent montrer leur décolleté alors qu'elles voilent leur visage dans l'aristocratie, par exemple. Hein. Donc on trouve des choses assez étonnantes.
C'est un peu le contraire de l'Amérique contemporaine.
Absolument, absolument. Alors la poitrine en particulier, à travers les âges, a des destinations tout à fait différentes et des significations différentes. Dans l'Antiquité, c'est quasiment la seule partie du corps féminin que l'on représente parfois, mais ça désigne les prostituées.
Donc pour le coup, là, c'était le moins problématique, c'était les seins des femmes à ce moment-là.
Oui, mais c'est un marqueur d'impudicité. Donc, voilà, au Moyen-Âge, on va pouvoir montrer la poitrine de la Vierge lorsqu'elle allait. Donc, elle va être associée à l'allaitement. Elle devient positive. Et même la lactation est parfois prise comme une allégorie de la diffusion de l'Esprit Saint. Donc, ça devient quelque chose de tout à fait sacré. Bon, et puis, à la Renaissance, il y a ce sort un petit peu particulier de la poitrine. Aussi à Venise notamment, où on tolère qu'elle soit dénudée.
Alors, une des choses que le nu peut faire par rapport à la nudité, c'est évidemment changer le personnage. Donc, j'ai cru comprendre dans vos travaux, Émilie Séris, que la nudité féminine est très taboue, mais si c'est Vénus, ça passe, parce que évidemment pour faire une Vénus nue, il faut une femme comme modèle, mais on l'oublie en quelque sorte, et parce que c'est Vénus, Aphrodite, c'est toléré un petit peu, sous condition, me direz-vous, je présume, et vous allez m'expliquer, dans la représentation.
Alors effectivement, depuis l'Antiquité, Vénus est un cas particulier. Vénus est la seule déesse que l'on va représenter nue à partir du IVe siècle, même si elle a été drapée jusque-là. À la Renaissance, elle peut apparaître effectivement comme l'un des prétextes possibles pour exposer la nudité de la femme. Alors, sous condition effectivement, notamment, de développer un discours moralisant, qui est pris en charge souvent par la poésie, et qui consiste à faire, alors c'est ce que Georges Didier Huberman a dénoncé en parlant d'un voile allégorique, d'un voile littéraire et d'un voile de concept aussi. Il s'agit de faire de la nudité du corps une allégorie de la beauté de l'âme, le plus souvent. Hein. Donc, soit elle va refléter les vertus de la femme représentée sur le modèle de Vénus, soit même elle représentera la beauté de l'âme de son amant et les sentiments qu'elle lui inspire. Mais il y a presque toujours, disons, un discours justificateur.
Alors, pour rester sur cette idée un instant, que la nudité choque immédiatement et n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, alors que le nu qui la représente peut un petit peu jouer avec l'élaboration, la personne représentée nue, les techniques, mettre un peu les choses à distance et donc s'offrir les moyens de représenter la nudité sans être dans une transgression immédiate. Je voudrais vous proposer un nouvel extrait. Il s'agit du film Le Nom des gens, que vous connaissez sans doute. C'est un film de 2010 de Michel Leclerc, dans lequel Baya Ben Hamoud, qui est incarné magistralement par Sarah Forestier, adore se mettre à poil et oublie même parfois de s'habiller. Et ce qui est assez génial, me semble-t-il, c'est que peut-être que les personnages autour d'elle, dans la fiction donc, sont bien plus choqués que nous, qui éprouvons certes des choses, mais peut-être pas seulement un sentiment de transgression et un effroi terrible. On écoute.
Je crois qu'il me reste des pâtes. On fait l'amour d'abord ou on fait à manger?
Oh, bah...
Personnellement, j'ai pas très faim.
Je crois que les femmes nues, ça me bloque.
C'est spécial, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Quand je repense à ma première nuit avec Baya, je vois clairement l'image d'une explosion nucléaire sur l'atoll de Mururoa.
Claire Talon-Hugon, quand on voit cette magnifique Sarah Forestier nue, on voit bien que les hommes autour d'elle sont complètement déroutés. Je me demande d'ailleurs s'ils ne le sont pas tout autant par l'expression très crue de son désir à elle. C'est ça qui les fait flipper, non? Et mais nous, qu'est-ce qu'on éprouve? Moi, je ne suis pas sûre qu'on éprouve qu'une transgression, là, soit réalisée. On éprouve... Enfin, vous allez me donner votre avis, mais... je sais pas, il y a de la tendresse, il y a une innocence. On éprouve d'autres choses que l'impression qu'une norme est transgressée.
Absolument, pour la bonne raison qu'on n'est pas dans la situation, qu'on est devant un écran, qu'on regarde une représentation, qu'on regarde un film, qu'on n'est pas au contact des personnages, enfin des personnes. On est devant des personnages, donc devant une représentation. Avec un médium qui est le médium cinématographique, avec toute l'attitude qui est attendue d'un spectateur de cinéma. Donc ça rejoint d'une certaine façon la question que vous posiez tout à l'heure à Christophe Genin, à savoir qu'est-ce que la photographie fait à la chose? Est-ce que le médium photographique en art est la même chose que le médium pictural, par exemple? Évidemment non.
Et le cinéma, ça pourrait être pareil. On pourrait penser que comme la photo, ça choque plus vite. Hein.
Donc, il faut considérer les choses selon le médium utilisé, le médium artistique utilisé. Il va de soi que la photographie, par rapport à la peinture, le caractère indiciel de la photographie crée une forme de présence dans l'absence, mais d'une présence qui n'est pas du tout du même type que dans le cas d'une peinture. Et si on va plus loin, si on ajoute le propre du cinéma, ça ajoute encore une forme de réalisme qui n'est pas, j'emploie le mot de façon extrêmement vague et imparfaite ici. Et si on va encore plus loin dans la performance, par exemple,
oui.
Eh bien là, on aura supprimé le re de la représentation. Oui. On aura affaire à une véritable présence. Donc dans ces cas-là,
là,
on arrive
choquant.
À une sorte de, ben,
ça des
plus choquant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il est certain que je pense à une performance de Marina Abramović en 97, Imponderabilia, où elle était debout avec Hulé en face d'elle, formant une sorte de portique entre nus, tous les deux nus, se faisant face, et les personnes qui venaient dans la galerie, ça se passait à Bologne, devaient passer entre leurs deux corps, qui étaient assez rapprochés, donc ils devaient forcément les toucher, les frôler, les regarder, parce qu'il y avait des manières d'éviter. On voit la vidéo qui reproduit l'événement, montre bien comment il est difficile de s'y confronter de façon... Donc là, vous avez une performance, vous avez quelque chose qui, justement, est à la limite entre l'artistique et le non-artistique.
Donc là, on est au plus près de la nudité crue,
la nudité.
Effective.
Voilà, le re de la représentation est devenu extraordinairement fin.
Alors, à quel moment ça marche? À mon avis, ça marche pour Sarah Forestier. C'est-à-dire que il se passe autre chose que si c'était juste la nudité. Il y a une poésie, il y a quelque chose je l'ai dit, presque de tendre. Et puis parfois, ça marche pas. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est juste le nu pour le nu, la nudité pour faire éprouver ce qu'on éprouverait. Je ne sais pas si l'un de nous se mettait tout nu ici. Bon, avec l'intérêt limité, quoique, en dépit du choc, que cela pourrait avoir.
Oui, bien sûr, la nudité, d'une certaine manière, ça renvoie à une forme d'innocence.
Oui,
tout à fait.
C'est pour ça qu'on est.
En même temps, il y a aussi touché. dans le ce que dit le protagoniste en disant les femmes nues, ça me bloque. Il y a quand même aussi l'idée que le vêtement, c'est ce qui couvre et c'est ce qui voile, mais c'est aussi une forme de séduction.
Mm-hmm. Oui, et donc nous, évidemment, ça nous est adressé de manière très indirecte.
Bien sûr.
Dans le film, c'est aux autres qu'elle montre sa nudité, pas à nous. À
Exactement.
Nous, elle montre autre chose. Christophe Genin, est-ce que ce n'est pas toujours néanmoins la question du désir, soit suscité, soit exprimé, comme dans le cas de Sarah Forestier, qui à la fois est ce qui permet de transfigurer la question de la nudité, parce que nous, c'est ça qu'on voit. On voit l'expression du désir Ça, c'est une question artistique. Et en même temps, c'est bien le problème. C'est-à-dire que quand les gens sont choqués par du nu, souvent, c'est parce qu'il y a le résidu de désir trop brut qui gêne.
Alors, effectivement, il y a de ça, mais il me semble que l'affaire est plus complexe. Alors, pour revenir sur le nom des gens, Sarah Forestier joue un personnage et la nudité fait partie de la cohérence du personnage. Bon. C'est une jeune femme très libre, très, très fantasque. Et donc, finalement, je crois, si je me souviens bien, même elle va nue dans le métro parce qu'elle a oublié de s'habiller.
Ça, c'est une
scène. Donc,
incroyable.
Donc, elle s'en rend compte. Bon. Donc là, il y a quelque chose de très jovial, même d'humoristique. Donc je pense que cette nudité, elle passe très bien, justement parce qu'il y a ce caractère humoristique lié à la définition d'un personnage qui est très bien réussi par le scénariste et le réalisateur. Bon. Alors après le désir, effectivement, on parlait tout à l'heure des allégories de la Renaissance.
Oui.
L'allégorie est supposée suspendre le désir, le mettre de côté. Il y a une Vénus, on est censé voir une Vénus et non pas une femme désirable. Bon, quoique chez Bouguereau, par exemple, bon, ou chez Cabanel, les femmes nues sont bien censées, même si ce sont des Vénus ou des Aphrodites, sont bien censées séduire le bourgeois qui va acheter le tableau. Bon. Donc là, en tout cas dans l'art contemporain à partir des années 1970, la question est vraiment complexe parce que la nudité de l'actant, le performeur ou la performeuse devient un actant, donc on n'est plus effectivement dans la représentation mais dans la présentation de son propre corps, dans une sorte de dénuement absolu qui veut arriver presque au cœur pur de l'art. Qu'y a-t-il? Quand on a tout supprimé dans l'art, que reste-t-il? Il reste le corps de l'artiste. Bon. Et donc c'est la seule chose qu'il va mettre en avant, sur laquelle il va travailler. Enfin, c'était l'art corporel des années 70. Bon. Et donc du coup, il y a soit effectivement une neutralisation du désir, par exemple par des actions de blessures ou de mutilations qui sont profondément, alors pas choquantes mais très souvent répugnantes, qui suscitent le dégoût du spectateur.
Ça passe mieux que le désir. Le dégoût passe mieux.
Alors, le dégoût, il est complexe parce que il parle à notre côté voyeuriste.
Donc on est
dans la répulsion et en même temps dans l'attraction. Bah c'est autorisé, oui. Enfin c'est autorisé, y compris d'ailleurs en Chine populaire, puisque j'ai rencontré un artiste chinois qui faisait des performances nues où il s'est ôté. J'avais relevé son nom. Enfin c'est He, son nom.
Il s'est ôté quoi ?
Il s'est ôté une côte.
Tout seul.
Tout seul, sans anesthésie. Il appelait ça un mètre de démocratie.
Mais il s'est cassé alors ?
Non, il s'est ôté. Il a fait une auto-chirurgie. Je suppose que ça devait être absolument douloureux. J'ai rencontré cet artiste à Pékin. Et il est devenu une vedette de tous les jeunes chinois artistes ou des milieux artistiques, enfin des médiateurs culturels, parce que c'était une action d'opposition au régime politique. Et en même temps, le régime politique le tolère complètement.
Ben voilà, c'est pas très transgressif.
Il a un logement de fonction. Bon. Donc, la Chine est un pays extraordinairement complexe.
Oui, alors, je vais prendre un autre exemple qui est celui que vous donnez dans vos travaux. L'homme en érection, ça c'est un immense tabou que, si j'ai bien compris, le photographe Robert Mapplethorpe avait transgressé.
Ouais.
Et ça s'est pas très bien passé néanmoins pour lui, vous allez nous expliquer. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout sûr que ça marcherait comme de la même façon en Chine populaire que de s'ouvrir une côte, que de s'enlever une côte en se faisant une blessure.
Exactement, c'est-à-dire que en Chine populaire, ça fait partie en quelque sorte de la bienveillance du pouvoir central qui tolère une marge de contestation à condition qu'elle soit sous contrôle. Bon, donc c'est une situation.
Et donc assez... le cinéma chinois, ce qu'ils voient, les gens est peu sexualisé.
Alors,
parce que nous, même en Europe, en Occident, supposément très libérés. Enfin, je veux dire, dans la plupart des séries, des films qu'on voit, les gens font l'amour en sous-vêtements.
Exactement.
Et quant à l'homme en érection, c'est le tabou absolu. Je veux dire, il n'y a que dans le porno qu'on peut le voir.
Alors, il y a dans le porno, Mapplethorpe, donc, c'était ce qu'on appelle une photographie militante, hein, une photographie en noir et blanc, qui était un sexe en érection d'un noir, en plus. Bon, donc, supposé être un amant de Mapplethorpe. Et effectivement, donc, c'était, alors là, scandaleux et transgressif à plusieurs titres, parce que c'est le sexe en érection lui-même, parce que c'est un noir, et parce que c'est supposé être l'amant de l'auteur. Bon, donc, là, il y a trois niveaux. On va dire de.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette photo alors?
Bah, cette photo, elle a quand même été, elle est montrée par exemple en Europe. Bon, et puis après, elle est minorée aux États-Unis, mais elle est en quelque sorte pas mal tombée, si je puis dire, puisque c'était pendant la période du sida. Bon, et Mapplethorpe lui-même est mort du sida. Donc, ça fait partie de ces photographies qui apparaissaient comme une sorte de... pas simplement un outrage aux bonnes mœurs pour une morale puritaine, bon, mais qui apparaissaient aussi comme une sorte de d'incitation à une progression de la maladie, ce qui n'était absolument pas le cas. Bon.
Donc en fait, on l'a récupéré dans un dolorisme.
Alors c'est on la récupère, voilà, on la récupère dans un dolorisme, oui. Tout à fait. Mais après, il y a encore des, là, bon, sans faire du culturalisme à outrance, mais il y a quand même des différences de statut entre une certaine culture américaine, on va dire quand même. Encore de fond puritain, et puis culture européenne. Cette photographie, par exemple, je l'ai vue dans une exposition à Berlin, mais parce que Berlin passe pour être une ville très libérale et qui montre des photographies qui ne seront pas forcément montrées à Paris ou en tout cas dans d'autres conditions, quoi, dans des espaces réservés, etc. Bon. Donc là, après, c'est le... aussi la, mais c'est une autre dimension, c'est la responsabilité de l'organisateur d'une exposition. Bon, jusqu'où est-il prêt à aller? Est-ce que lui-même est prêt à assumer, pas forcément un scandale, mais.
Alors, on va repartir un peu dans l'histoire. La Renaissance, les Grecs anciens. Je voudrais poser ce, et puis le 19e siècle, je voudrais précisément poser la question du 19e siècle. Car souvent, si le nu est toléré, on n'oublie pas qu'il a été fabriqué, peint, grâce à un modèle qui, lui, était dans la nudité, dans le plus simple appareil. Et on pouvait peut-être chercher des noises au modèle qui posait nu, qu'on ne cherchait plus à l'artiste qui avait peint ces femmes nues, souvent des femmes. Alors, c'est très intéressant parce que, Claire Talon-Hugon, vous avez évoqué la photographie. Lorsqu'au 19e siècle, on voulait faire poser moins longtemps les modèles, on les mettait nus, on prenait des photos, comme ça, on n'avait pas besoin de poser des heures. Et puis, il y a eu une exposition, vous le savez, à la Bibliothèque nationale de France, en 1997, montrant justement les photos de modèles utilisées par les peintres. Et là, l'impression de scandale est revenue. Écoutez ce reportage de France 3 de 1997, octobre.
La pose est longue et le bon modèle, une denrée rare, chère et souvent imprévisible. Alors à Paris, centre de création artistique par excellence, une bonne idée va faire son apparition. La photo, comme une garantie, l'assurance pour l'artiste de pouvoir finir son œuvre. Sur le papier, la pose est le plus souvent académique. Le photographe s'inspire directement des chefs-d'œuvre de la sculpture et de la peinture. Pourtant, la photo de nu n'est pas une œuvre d'art, tout juste une documentation, un outil de travail au parfum de scandale.
Dans une époque où la morale et la censure sont assez présentes, ça donne des images qui sont beaucoup plus crues que la production peinte ou dessinée de l'époque. Ce qui fait que notre regard à nous, qui est beaucoup plus habitué à la photographie, ne perçoit peut-être pas ce que ces images pouvaient avoir de choquant à l'époque, même celles qui nous paraissent les plus anodines. La plupart des images que nous montrons étaient des images tout à fait autorisées. Elles sont même souvent rentrées dans les collections publiques à l'époque par le biais du dépôt légal. Mais on montre aussi quelques-unes des images qui étaient interdites à l'époque et qui nous sont arrivées par le biais de saisies de la police chez des photographes.
Carole Talon-Hugon, vous n'êtes évidemment pas surprise que le caractère transgressif de la nudité réapparaisse quand on montre les photos des peintres utilisés, les photos de leurs modèles utilisés par les peintres du 19e, alors que leur peinture, eh bien, on s'y est habitué. Et l'époque qui était la leur s'y était plus habituée.
Oui, alors... la question du modèle, c'est une question difficile, puisque le modèle du nu, ça peut être bien entendu un modèle vivant. C'est le cas auquel vous faites référence. Ou bien ça peut être un modèle idéal, hein, ce que disait la Renaissance, l'Antiquité. C'est-à-dire, en gros, c'est en regardant vers l'idée de la beauté féminine que le sculpteur ou le peintre devait réaliser son œuvre. Mais dans les deux cas, il y a effectivement une forme de mimésisme qui n'est pas la même. Alors dans le cas dont vous parlez, la question, c'est la question de la nudité du modèle dans l'atelier. Oui. Et de sa représentation, donc la nudité du modèle qui devient un nu, qui devient transposé dans, oui, dans le champ artistique, pictural ou sculptural, qui devient effectivement un nu. Et dans l'extrait que vous venez de passer, on voit bien effectivement tout l'écart entre ce que c'est que de poser nu dans un atelier, avec la question de savoir quel est le type de regard que le peintre ou le sculpteur porte sur son modèle. Donc, est-ce que c'est un regard désintéressé ? Est-ce que c'est un regard qui est attentif aux seules qualités plastiques du modèle et qui essaie de les transcrire avec fidélité ? Ou bien, est-ce que c'est un regard concupiscent ? Et ça, c'est un grand débat depuis l'Antiquité, depuis les anecdotes qu'on trouve chez Pline, concernant le rapport du peintre et de son modèle, ou du sculpteur et de son modèle.
Donc il faut, pour que ce soit acceptable, que, encore une fois, il n'y ait pas trop de désir dans le résultat, c'est-à-dire dans la peinture, dans le nu.
Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas trop de désir dans le résultat. Mais en tout cas, ce qui est supposé, c'est que l'artiste qui regarde le modèle afin de le transposer d'une manière ou d'une autre sur sa toile, ne le regarde pas d'un regard désirant, mais le regarde d'un regard désintéressé, selon la formule kantienne, c'est-à-dire sans intérêt autre qu'esthétique. C'est-à-dire sans intérêt sexuel, sensuel.
Donc on va pouvoir chercher etc. des noises dans. On va passer à Kant et vous allez bien nous expliquer cette notion de non-intérêt. Mais est-ce qu'on ne leur cherche pas de noises en allant fouiller leur relation effective ? Ou si on leur en cherche, est-ce qu'on se fie uniquement sur le résultat, c'est-à-dire la peinture ? Ou est-ce qu'on va embêter les modèles les peintres, indépendamment de ce vers quoi ça a mené.
Alors, d'une part, la relation entre le modèle, la relation sensuelle, voire sexuelle, entre le modèle et le peintre, là encore, beaucoup de peintres ont fait poser leur maîtresse, c'est bien connu dans l'Antiquité, etc. Dans les cas auxquels il était fait référence dans l'extrait, je n'en sais rien. Hein, on ne sait pas quel était en tout cas, moi, je ne sais pas quel était leur statut. La question de savoir si, est-ce que dans le résultat qu'est l'œuvre picturale ou sculpturale, se lie le désir et la relation sexuelle effective, ça, j'avoue que je serais bien en peine de le dire. En tout cas, moi, je serais bien en peine de l'identifier, hein, entre la chose réalisée et ce qui a permis la réalisation de la chose. Il y a un tel écart que, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que l'art, à la fois du côté du spectateur et du côté du producteur, suppose, en tout cas dans le paradigme moderne de l'art, une forme d'intérêt exclusif pour la dimension esthétique.
Alors, nous parlons de ce qu'il y a de transgressif dans le nu. Nous voyageons dans diverses époques. Là, nous venons d'évoquer le peintre et son modèle plutôt au XIXe siècle. Je suis en compagnie de Carole Talon-Hugon, d'Émilie Séris et de Christophe Genin. Je voudrais justement, Émilie Séris, que vous nous précisiez les choses concernant la Renaissance. Parce que si, bon, comme en plus la Renaissance fait des références permanentes aux Grecs, hein, à la mythologie, on ne peut pas oublier que par exemple, il y avait comme modèle pour Aphrodite, l'Aphrodite de Praxitèle, qui était un sculpteur dont nous avons parlé dans cette série du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il y avait sans doute une courtisane qui s'appelait Phrynée et qui a eu des pépins. Elle a eu un procès, bon, qui par ailleurs, c'est complexe à analyser parce que pour faire valoir que c'était pas de sa faute, qu'elle avait rien fait de grave, on l'a mise nue au procès pour montrer qu'elle était tellement belle qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Bon, donc c'est quand même très délicat. Mais ça vous évoque quoi, vous, pour la Renaissance, ce genre de problème, le modèle, aller l'emmerder, quoi, parce que finalement, on peut pas aller embêter la figure de la peinture transfigurée.
Alors, le modèle, bien souvent, les artistes étaient obligés de peindre les femmes qu'ils connaissaient, hein, étant donné qu'il n'y avait pas de modèle professionnel, etc. Donc la question de la sexualité, elle est inévitable, et c'est probablement la même chose pour l'Antiquité. Ce rapport intime est quasiment incontournable. C'est Raphaël et la Fornarine.
Oui.
Donc c'est un lien. On ne peut pas évacuer les pulsions sexuelles et sensuelles de ces tableaux. Par ailleurs, je voudrais revenir parce qu'on a parlé de l'allégorie, oui. Mais il faut faire quand même la part entre ce discours moralisateur qui visait à faire passer les choses, en quelque sorte, hein, et à sauver la pudeur, et puis la pratique et la fonction de ces images. On retrouve à la Renaissance la fonction de fécondité propitiatoire, quasiment, hein, oui. de ces images, qui visent d'abord, dans le cadre du mariage, bien souvent ces Vénus étaient offertes comme cadeau de mariage, hein, à des toutes jeunes épouses, et donc il s'agit de favoriser la sexualité du couple et la procréation.
C'est une dimension quasi utilitaire qui rend la chose acceptable. Alors que montrer ses nus n'importe comment en dehors de la chambre à coucher de les jeunes époux, ce n'était pas toléré.
Voilà, c'est-à-dire que tant que ça reste dans le cadre vraiment de l'intimité, finalement, ça n'est pas si transgressif que cela, oui. Parce qu'on est vraiment dans les cadres de la monogamie sacrée, du mariage chrétien, et donc on peut autoriser l'érotisme.
Alors, la poésie a-t-elle plus de marge de manœuvre ou non par rapport à la peinture, par exemple? Donc vous travaillez sur les blasons, qui sont des... expliquez-nous, vous allez nous expliquer les blasons, ce qu'ils faisaient, et jusqu'à quel point on pouvait les tolérer, et à quel siècle?
Alors, bon, d'abord, je précise, je ne travaille pas personnellement sur les blasons. Je m'appuie sur les travaux de Julien Guéry, qui est vraiment spécialiste de la question. Alors, le blason, d'abord, on retrouve un peu... La Renaissance ne connaît pas la photographie, mais elle connaît la fragmentation du corps. Elle connaît le cadrage, notamment par cette pratique du blason, dont on a bien montré qu'elle était liée à la libéralisation de la dissection anatomique. Hein. Et donc, on peut faire des cadrages sur certaines parties du corps, y compris des parties du corps qui sont désignées comme honteuses, hein, les fameuses pudenda. Alors... Cette pratique du blason, elle a été censurée, elle a quand même suscité des réactions très violentes, y compris chez les écrivains eux-mêmes, il y a tout un courant de contre-blasonneurs, hein, qui, eux, réécrivent des blasons, donc du cul, du con, tout ce que vous voulez, mais en dénigrant ces parties parce qu'elles sont considérées comme laides en elles-mêmes. Et ça, depuis Cicéron, le traité des devoirs, qui s'appuie sur l'idée que la nature elle-même a cherché à voiler certaines parties du corps par la pilosité, parce qu'elles étaient laides. Donc il y a ce débat assez violent. Alors la littérature a la possibilité de détourner la censure, effectivement.
C'est-à-dire
alors,
parce que quand elle dit « je vais quand même lire hein, un blason anatomique du corps féminin de 1543, blason du cul, c'est le beau lit où le con se repose, se complaisant, se content d'ignes choses, etc. etc. » le fait qu'elle emploie ces mots choquait, ou au contraire, voilà, il y avait un certain nombre de mots qui étaient acceptés?
Non, ça a choqué, effectivement, puisqu'il y a eu censure. Néanmoins, il y a possibilité de jeu, effectivement, avec ces règles. Alors, ces blasons ont très vite été dans les éditions complétées par des illustrations, des gravures, qui étaient elles-mêmes placées dans des cadres précis, avec parfois des changements d'échelle.
Au XVIe siècle, donc.
Au XVIe siècle, tout à fait.
Dans le nord de l'Europe
En France.
Ouais, et en Italie aussi.
Alors, c'est vraiment une pratique française, le blason. C'est une invention française, on peut s'en vanter. Oui. Et donc les éditeurs, pour éviter la censure, intervertissent par exemple les images. C'est-à-dire que au blason du cul, eh bien on va placer la représentation d'un couple habillé en train de se compter fleurettes, etc. Et puis par contre on mettra l'image des fesses ou du sexe masculin à un autre endroit correspondant à une autre partie du corps. Parfois aussi tout simplement on laisse la case vide, donc le censeur n'a rien à dire.
Ça s'offrait ou bien ça se publiait véritablement?
Ah, ça se publie, ouais, ça se publie tout à fait.
Oui, oui. Donc il y a quand même un jeu, J.E.U., avec le nu et les parties les plus délicates à montrer du corps humain, que évidemment la nudité effective ne peut pas, avoir. Elle est là, elle est dans la réalité, il n'y a pas le jeu J.E.U. des représentations. Alors nous avons évoqué Emmanuel Kant, c'est très intéressant parce qu'il a vraiment conceptualisé l'idée que la représentation esthétique nous fait sortir de la sensation brute qui, elle, peut être gênante. Il parle d'ailleurs de sentiments esthétiques qui seraient quelque chose qui relèverait des sens, mais serait différent de la sensation. Et il affirme qu'il n'y a beauté que lorsqu'on sort de la sensation brute et qu'on perd tout intérêt matériel, dit-il, pour la chose belle, qu'on ne saisit plus que comme une forme. Écoutons un extrait de la critique de la faculté de juger, ce texte de 1790 d'Emmanuel Kant.
On nomme intérêt la satisfaction que nous associons à la représentation de l'existence d'un objet. Une telle représentation se rapporte donc toujours en même temps au pouvoir de désirer. Mais quand la question est de savoir si quelque chose est beau, on ne veut pas savoir si nous-mêmes ou quelqu'un d'autre portons à l'existence de cette chose ou même pourrions lui porter un intérêt. Mais comment nous l'apprécions lorsque simplement nous la considérons? On veut seulement savoir si la simple représentation de l'objet est accompagnée en moi de satisfaction, si indifférent que je puisse être à l'existence de l'objet de cette représentation. On voit facilement que ce qui importe pour dire que l'objet est beau et pour prouver que j'ai du goût, c'est ce que je fais de cette représentation en moi-même, et non ce par quoi je dépends de l'existence de cet objet. Chacun doit convenir que le jugement sur la beauté, où se mêle la moindre dimension d'intérêt, est très partial et ne constitue pas un pur jugement de goût. Il ne faut pas se préoccuper le moins du monde de l'existence de la chose, mais être sous ce rapport entièrement indifférent pour pouvoir, en matière de goût, jouer le rôle de juge.
Pas d'intérêt sensible pour l'objet du beau, un désintéressement esthétique, nous dit Kant, donc on imagine bien ce que ça veut dire concrètement, de même que normalement les natures mortes ne nous font pas saliver, ne nous donnent pas envie de manger les fruits, enfin normalement, les corps magnifiques dénudés, d'un point de vue esthétique, ne doivent susciter aucun désir intéressé, pour parler comme lui. Carole Talon-Hugon, c'est une doctrine qui a beaucoup de disciples.
Oui. Ce qui est important dans le texte, on l'entend puisque le mot est répété, c'est l'insistance sur l'inintérêt pour l'existence de la chose représentée. C'est-à-dire, ce qui compte, effectivement, c'est pas que le fruit existe et donc soit susceptible d'être pris, d'être mangé, etc. Mais c'est la représentation de l'objet qui importe. Donc là, il y a une grande différence. Le pouvoir de désirer, il est forcément lié à l'existence de l'objet. Donc, si on a affaire à une représentation, on n'a pas affaire à une existence.
Un objet matériel.
Voilà. Il n'y a beauté d'une part, et il y a la bonne, il y a attitude esthétique, c'est-à-dire la bonne manière de regarder, qui suppose un désintérêt pour l'existence de l'objet. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le désintéressement, ça signifie l'absence d'intérêt autre que purement esthétique. Absence d'intérêt moral, absence d'intérêt religieux, absence d'intérêt intellectuel, absence d'intérêt sensuel, absence d'intérêt sexuel, etc., etc. Ça, c'est, c'est véritablement cette notion d'intérêt, de désintéressement qu'on trouve au XVIIIe siècle, chez Shaftesbury, puis chez Kant, enfin chez à peu près tous les auteurs, qu'on retrouve après au XXe siècle formulé autrement. On parlera par exemple de distance psychique. Il faut qu'il y ait une distance psychique par rapport à l'objet.
Pour qu'il y ait de l'esthétique. Oui.
Il faut qu'il y ait, diront d'autres, une attitude, un regard intransitif, c'est-à-dire le regard qui s'arrête à la surface de l'image et qui ne va pas regarder vers le référent de l'image, donc vers la femme, le modèle par exemple, mais qui regarde la représentation et non pas la femme nue qui a servi de modèle. Vous voyez ? Donc cette intransitivité du regard a effectivement défini, pour toute la modernité, la bonne attitude esthétique qui est définie par le désintéressement. Et comme tout se tient, en effet, il y a d'une part ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le désintéressement, c'est également un surintérêt, pourrait-on dire, pour la dimension purement esthétique, que vous l'avez compris, puisque le désintéressement signifie pas que la chose ne m'intéresse pas, mais elle ne m'intéresse que d'un certain point de vue. Et ça vaut pour l'artiste, on le disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de Raphaël et de la Fornarina. Il y a un tableau dont l'auteur m'échappe, mais qui représente Raphaël ayant sur ses genoux la Fornarina, habillée d'ailleurs, mais qui détourne la tête de celle qui est sur ses genoux pour regarder le portrait de la Fornarina qu'il vient de faire. Donc c'est
un
tableau extrêmement intéressant pour la question qui nous occupe. C'est-à-dire, il y a le plaisir sensuel, charnel de cette femme qui est sa maîtresse, qui est sur ses genoux. Et puis, il y a la manière dont il regarde la représentation qu'il en a faite.
Mais on ne peut pas savoir si c'est que le désir charnel est plus grand, finalement, à l'égard du tableau que de la femme réelle sur ses genoux, ou si le plaisir esthétique, qui n'est pas charnel, est plus important pour lui que le plaisir charnel de la femme, avec la femme qu'il a sur ses genoux.
Effectivement, le tableau est là pour nous poser la question. Et donc, du point de vue du spectateur, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire ce qui est attendu, c'est cette distance psychique qui fait que, normalement, je dis bien normalement, l'objet, le nu, alors plus ou moins idéalisé, plus ou moins, mais toujours représenté, doit instituer une barrière au désir, si vous voulez. Alors, je le dis avec prudence, parce qu'il y a quand même une force des images.
Oui, donc, c'est ça qui fait toute la complexité. Ce qui est intéressant, donc on va finir sur cette question, c'est dans l'art contemporain, dans la photographie, est-ce qu'on est toujours d'accord avec Kant et surtout, est-ce qu'on n'a pas parfois envie de lui donner au contraire, profondément tort. C'est-à-dire, on fait semblant d'être d'accord avec lui, mais en réalité, on crée des images dont on ne néglige pas le désir qu'elles provoquent. On le connaît, on peut même après le théoriser en disant, bah non, Kant c'était bien gentil, mais aujourd'hui, il est important que les nus excitent le désir. Ça fait partie de l'esthétique. Est-ce qu'on le nie? Est-ce qu'on le reconnaît malgré soi? Est-ce qu'on le nie, mais on le montre dans ses photos? Est-ce qu'on l'assume? Qu'en dites-vous, Christophe Genin, dans la photographie contemporaine?
Alors, si on prend un exemple très célèbre, Jeff Koons et la Cicciolina, dans un album de photos qui s'appelle Made in Heaven, bon, qui est un pastiche d'Adam et Ève au paradis et du péché originel, il y a effectivement, ça se voudrait... je dirais, une mise en échec de la théorie de Kant, en tout cas sur le principe, puisque ce qui est représenté, ce sont des corps nus, dans une relation érotique et pornographique, en tout cas c'est assumé comme tel, puisque la Cicciolina un passé de d'images pornographiques, entre autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence de réception de ce type de photographie. Bon, parce que en Europe et particulièrement en France, ce genre de liberté, de licence poétique, on peut dire, pour ce couple d'artistes, a été tout à fait accepté. Bon, ça a été représenté dans une exposition sur Kunz au Centre Pompidou, mais on avait quand même mis dans une salle particulière, hein, avec une entrée surveillée pour éviter que les enfants voient des images cochonnes. Enfin bon, mais en tout cas, le public averti assumait tout à fait ça, et avec une certaine, d'ailleurs, même si ce que je vais dire est une enquête de terrain à 25 centimes, une certaine déception de la part du public, puisque dans le fond, quand on voit, ah, ce n'est que ça. Bon, donc dans le fond, ça ne suscitait pas le désir du spectateur. Il y avait une sorte de teasing, comme on dit en anglais, d'attente pour se dire, bah tiens, on va voir quelque chose de croustillant. Et puis, ah bon, finalement, ce n'est que ça. En revanche, pour un certain type de public étranger, c'était déjà beaucoup. Il y avait une forme d'outrance. Donc là encore, on est dans des différences d'appréciation. Mais est-ce que la photographie représentant des corps, en particulier même des corps en acte sexuel, suscite le désir du spectateur? Pas forcément. Et c'est ça qui est un peu, je dirais, étrange, c'est que très souvent, il y a beaucoup on va dénoncer Kant en disant, mais si, il y a quand même derrière un intérêt, un désir, pourquoi pas une volonté de consommation. Mais somme toute, je veux dire, si cette volonté de consommation existait, il y aurait un passage à l'acte.
Non, mais or, je veux dire, en termes de théorie esthétique, il y a un texte que vous nous avez signalé de Jean-Marie Schaeffer de 2006 dans une revue, son article s'appelait Le corps est image, où il dit que la sexuation du corps, et tout particulièrement du corps féminin, a de tout temps été un danger pour le nu, celui du risque de voir la belle image déchoir en pornographie, c'est bien notre sujet. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le risque qu'une image érotique déchoie en pornographie est toujours quelque chose d'aigu à la conscience des créateurs, où ils s'en fichent complètement?
Alors, beaucoup de créateurs s'en fichent complètement. Sauf, encore une fois, dans des pays qui ont des morales d'État. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays occidentaux, bon, parce qu'il faut quand même toujours mettre un bémol politique à ce qu'on dit. Et puis la pornographie a aussi une définition juridique assez précise, hein. Donc c'est la représentation de l'acte sexuel avec pénétration ou non, mais enfin bon, on va dire ça correspond à des standards qui sont d'ailleurs les mêmes qui permettent de définir aussi le viol, bon, des cas de viol. Donc les artistes peuvent jouer avec ça. Le public généralement sait ce qu'il va voir. Il n'arrive pas non plus. Le public n'arrive pas innocent. Bon, et quand il va voir, par exemple, des photographies estimées pornographiques, puisqu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le porn art, hein, donc il y a la dimension pornographique est assumée par sa volonté justement transgressive, politique, une dénonciation de la morale, etc., dénonciation des normes de genre. Enfin, il y a tout un discours derrière. Le public, généralement, il est déjà consentant.
Bye.
Et c'est The B-52s que vous entendez. Theme for a Nude Beach, 1986. Merci Carole Talon-Hugon, merci Émilie Séris, merci Christophe Genin.
Merci.
Pour avoir éclairé pour nous la question du nu et de son aspect transgressif véritable. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'opposition. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi ne supporte-t-on pas l'opposition? Le fait de rencontrer un obstacle ou un interdit ou une opposition en général n'est pas seulement un obstacle ou une expérience d'ordre physique, comme si par exemple notre corps rencontrait un mur, il ne peut pas aller plus loin ou il rencontre une limite, je ne peux pas sauter pour attraper tel ou tel fruit dans un arbre qui est trop haut. Le fait de rencontrer un obstacle a toujours aussi une dimension psychique, une dimension intérieure. Cela vient nous frustrer, cela vient nous révéler une limite, cela peut aussi nous mettre profondément en colère. Et c'est contre cette colère que Jean-Jacques Rousseau jugeait toujours abusive, dangereuse, la source de toutes les tyrannies et de tous les malheurs, ce désir infini de toute satisfaction impossible qui est la source de notre malheur. C'est contre donc cette colère que Jean-Jacques Rousseau avait construit toute son éducation d'Émile au XVIIIe siècle. Il faut faire l'apprentissage de la nécessité et de la loi. Pourtant, l'émergence de cette colère n'est pas si facile à régler. La colère peut d'ailleurs être légitime quand on s'oppose à nous de manière injuste, alors la colère de se voir refuser quelque chose de légitime peut engendrer le cycle de la violence, le cycle de la vengeance, le cycle des oppositions qui deviennent des guerres. Alors comment cette insupportable colère surgit de l'opposition peut-elle être régulée, peut-elle être justifiée, peut-elle être encadrée dans l'éducation et aussi dans la loi, dans la vie individuelle et morale et aussi dans la vie sociale et politique. Ici, la psychanalyse nous a appris beaucoup de choses. Donald Winnicott, par exemple, nous apprend pourquoi il appartient à l'âge de l'adolescence, car Winnicott n'est pas seulement un psychanalyste de la petite enfance et de l'amour maternel primaire, il est aussi un psychanalyste de l'adolescence, de la révolte, et de la révolte dans ce qu'elle a à la fois de justifié et d'excessif, dans la manière dont il faut s'y opposer, dont il faut lui opposer des règles, et en même temps la comprendre et parfois l'encourager quand elle est dans un désir de justice et de reconnaissance mutuelle. Eh bien oui, Winnicott nous a appris justement que ce qui définit l'expérience de l'opposition, cette expérience insupportable de la résistance de l'autre à nos désirs, et qui est parfois juste et parfois injuste, ce qui la définit, c'est l'expérience de soi-même, c'est la régulation de sa propre force de transgression, de son propre désir de supprimer l'obstacle, de sa haine intérieure pour ce qui nous résiste, la haine de ce qui s'oppose à nous, qui est peut-être même la définition de la haine en général, qu'on ne peut pas toujours abolir, mais qu'il faut apprendre à maîtriser pour en faire un moteur de justice et non pas de destruction mutuelle et infinie. Ainsi, apprendre à supporter cette volonté de détruire l'autre, apprendre à résister à l'autre, c'est la fonction aussi de l'adulte, lui montrer qu'on résiste tout en comprenant pourquoi cette opposition est fondamentale et permet l'émergence de la nouveauté et d'autrui. Oui, apprendre à réguler cette expérience de la colère dans l'indignation face à une opposition, apprendre à justifier une limite, à poser une limite absolue dans la loi et en même temps à reconnaître la créativité de l'autre telle qu'elle s'exprime dans ce désir de destruction même, c'est tout un travail humain qui a une traduction politique très profonde. Il faut toujours justifier les refus qu'on oppose au désir de l'autre et aussi reconnaître dans cette opposition qui se manifeste, dans cette colère qui ne supporte pas d'être entièrement refoulée, l'exigence d'une reconnaissance mutuelle. Les moi doivent se reconnaître mutuellement. Il est vrai aussi, cela vaut aussi pour les peuples qui ont besoin d'une reconnaissance politique mutuelle pour que leur opposition ne suscite pas la guerre.
Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Carla Michel, Chaï Magiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!